Bonjour Renaud Dourge en votre compagnie. Je reçois dans ce studio un invité quasi permanent, dirais-je, puisqu'il s'agit d'Albert Wilmets. Albert Wilmets, bonjour.
Bonjour.
Donc, écoutez, on ne va pas changer tellement de sujet, puisqu'on va encore parler de Sacha Guitry. C'est votre sujet favori. Et vous êtes, je le rappelle, le président de l'Association des Amis de Sacha Guitry.
Absolument.
Vous éditez, ce sont les éditions des Amis de Sacha Guitry. Et là, c'est un ouvrage vraiment très, très important sur le plan historique, dirais-je, 60 jours de prison. Car Sacha Guitry s'est retrouvé pratiquement 2 mois, une journée près, en prison. Comme il avait dit lui-même, je crois, j'ai été emprisonné le jour de la libération. Je crois qu'il avait fait un petit jeu de mots là-dessus.
Ouais, j'ai été le premier prévenu.
Oui. Et le premier prévenu, c'est cela. Donc on va peut-être un petit peu expliquer comment il s'est retrouvé en prison, mais il faut dire que quelques jours avant, votre grand-père, Albert Wilmets, l'avait prévenu de cela.
Oui, c'est-à-dire qu'Albert Wilmets, qui a écrit tellement de chansons et qui était son meilleur ami, j'ai beaucoup de dédicaces à Albert Wilmets, donc à mon meilleur ami, Albert Wilmets connaissait très bien le monde politique, il avait été le secrétaire de Clémenceau. Et il s'était rendu compte qu'il y avait des jalousies épouvantables dans le milieu du théâtre et dans certains milieux littéraires, et qu'il pouvait y avoir à la libération des règlements de compte en dépit des lois, en dépit de la justice, dans l'anarchie de l'époque qui peuvent arriver. Et il lui avait dit « prépare-toi, prépare une défense ». Il lui a demandé exactement 1 mois avant que l'intrusion arrive et qu'on vienne le chercher, comme a dit Madame Choiseul.
Et lui-même était resté indifférent à ces menaces, en fait.
Ben, c'est-à-dire que tous ses amis lui demandaient de pouvoir se protéger. Il avait été, comme beaucoup de personnes dans le magazine Life,
condamné à mort. Il y a Maurice Chevalier, entre autres.
Oh, c'est insensé. Quand on va regarder la liste des gens qui ont été mis là, c'est une façon de se dédouaner parfois aussi, quand on accuse les autres pour ça.
Et votre grand-père, pardonnez-moi de vous interrompre, lui avait dit « Est-ce que tu connais bien Claude Dauphin ?»
Oui, parce que
Claude Dauphin, qui était un excellent acteur également,
oui,
mais était, je crois, c'était dans la deuxième DB.
Oui, et puis surtout...
Comme son frère Jean Nohain, d'ailleurs, qui a été blessé lors de la libération.
Voilà, et puis Claude Dauphin avait joué également Dédé avec Daniel Darieux dans un film absolument merveilleux, etc. Donc, tout le monde se connaissait très bien. Et donc, Albert Wilmets a tout fait pour essayer d'éviter à Sacha l'ignominie d'une situation arbitraire où on vient chez vous sans mandat d'arrêt, on vous met en prison, après on essaye de vous inculper, mais pas tout de suite parce qu'on ne sait pas de l'inculper de quoi, après on l'inculpe, après on se dit mais il faut quand même qu'il y ait un dossier. Le dossier étant vide, on fait un appel dans le journal.
Mais je crois que c'était quand même un cas extraordinaire qu'on fasse ça pour lui. Pour la plupart du temps, on n'a pas fait ça.
En réalité, il était tellement connu, ce dont aujourd'hui nous nous en rendons en partie compte, puisqu'il y a des romans qui sont écrits sur lui de façon pas très bien intentionnée, mais c'est surtout par des gens mal informés. Il était encore plus connu de son vivant, à tel point que le lendemain de son incarcération, ce sont des Américains qui viennent le voir en prison pour lui demander son opinion sur la libération de la France et qui vont le photographier en sortant de la prison de façon à avoir une photographie avec un peu plus de lumière. On a du mal à imaginer la situation dans la pratique. Il était connu à un point qu'on n'imagine pas.
Donc ce sont des FFI ou supposés tels qui arrivent chez lui.
En réalité, la police...
Dans son hôtel particulier.
Voilà. La police était en grève. Et on voit débarquer 2 personnes, un qui est une espèce de brute armé d'un revolver qui, comme dit Sacha, je ne lui ai pas donné le prétexte, et un autre qui est un homme absolument charmant dont Sacha va dire à plusieurs reprises que c'est un garçon qui est tout à fait bienveillant, etc. En dessous, il y a 3 personnes avec des mitraillettes, on coupe le téléphone, c'est consternant. puisqu'il était en pyjama chez lui, en robe de chambre, à 10h du matin.
Pyjama de couleur de jaune d'œuf, quelque chose comme ça, canari.
Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, il avait un pyjama à pantalon vert, et le haut, c'était des verts et jaunes, etc. Nous sommes le 23 août, il fait chaud, et il est 10h du matin, il prend un café, quand Madame Choiseul lui dit « Monsieur, on vient vous chercher ». Et il voit débarquer les deux personnes. Ils vont aller à pied à la mairie, c'est en gros une demi-heure à pied, Sacha déteste marcher.
Coiffé d'un panama.
Et avec des chaussures, des mules, comme des espèces de pantoufles qu'on ne lui a pas laissé la possibilité de faire autre chose. Il a essayé de se changer, mais le méchant lui a dit non, on vous embarque tout de suite. Sacha d'ailleurs, dans l'ensemble de ce livre exceptionnel que nous publions pour la première fois.
Rappelons son titre, 60 jours de prison.
60 jours de prison, fait une analyse historique et psychologique inouïe. Psychologique, car en prodigieux acteur, c'est un peu comme si Molière décrivait son arrestation, c'est-à-dire qu'il décrit exactement la situation et les sentiments des personnes. Et en même temps, c'est historique, parce que sa mémoire est absolument prodigieuse et qu'il se souvient absolument de tout. Donc, vous avez dans le livre ce qui s'est vraiment passé à la mairie, au dépôt, au Veldiv, à Drancy, et à Fresnes, puisque
il a fait immédiatement, pardonnez-moi de vous interrompre, un mot d'esprit, il a dit « j'ai cru qu'on allait me marier de force ».
Voilà.
Alors, lui qui a été marié 5 fois, rappelons-le.
Voilà, en réalité, quand il arrive à la mairie du 7e, on le met dans la salle des fêtes, et dans le livre, il dit « je la connais
». Oui, c'est un habitué des lieux, peut-on
exactement.
Dire.
Exactement.
Lorsqu'il arrive, on va commencer à l'interroger ou pas?
Alors, c'est ça qui est absolument inouï, c'est que on n'interroge pas, parce qu'on ne sait pas quoi. Il faut attendre à peu près un mois pour que quelqu'un lui dise « Vous comprenez, s'il n'y avait pas la rumeur, on vous relâcherait tout de suite, on n'a absolument rien contre vous. » Donc, c'est ça qui est absolument insensé comme histoire. Mais à partir du moment où vous avez été en prison, alors qu'il y a un paquet de gens qui ont été en prison, citons même Napoléon, qu'il y a été un moment, et d'autres, on a toujours l'impression qu'on a fait quelque chose de mal. Alors que dans ce cas précis, quand il est au dépôt, il y a plus de 1200 personnes. Au Veldiv, il y en a une quantité beaucoup plus importante, et je permettrai de ne pas citer les noms, Sacha en cite quelques-uns, mais c'est toujours dans son esprit bienveillant et en même temps agréable à lire.
Mais il y a quand même des gens qu'on peut citer, parce qu'on le sait, il y a eu par exemple Carcopino, qui n'était quand même pas n'importe qui comme historien.
Voilà, mais alors vous avez des exemples beaucoup plus étonnants parmi les gens qui ont été arrêtés. Vous avez Jean de Caslane, qui est un grand, qui est ancien député, comme ses deux frères Caslane des députés. Il avait la malchance d'avoir une femme allemande, alors forcément c'était un peu compliqué. Et tous les cousins venaient la voir à la maison. Alors à la libération, c'était d'une imprudence absolument insensée. Et lorsqu'il arrive à la prison, on lui dit « votre argent, le voilà, votre portefeuille, le voilà ». Et il avait une canne à pommeau d'or. Votre canne? Ah non, elle me vient de Talleyrand, il descendait de Talleyrand Périgord, elle me vient de Talleyrand, mais monsieur, il faut que vous la donniez. Si c'est comme ça, je pars. Bon, on est complètement déconnecté. Il y a toute une série de gens qu'on a arrêtés, on ne sait absolument pas pourquoi. Et alors Sacha raconte qu'il est emprisonné avec l'ancien ministre des prisons, enfin avec un paquet de gens absolument hallucinants.
Un ministre haïtien également.
Voilà.
On demande qu'il faisait là.
Exactement. Et qui prend sa douche tout nu dans la toute petite cellule microscopique où ils sont à 4 pour dormir. Rappelons que Sacha Guitry a une 60aine d'années. Rappelons qu'il est rhumatisant et des problèmes de santé, comme vous le rappelez, absolument épouvantables depuis toujours. Puis c'est pour ça qu'à la guerre de 14, il a été réformé 2 fois à cause de rhumatisme articulaire qui parfois l'empêchait de jouer au théâtre. Ça donne une idée. Il y a une des pièces qu'on lui a arrêté pour cette raison-là. Alors l'idée de le mettre là, au début, disons-le quand même, il a failli être tué dans son bureau. Mais on l'a très gentiment proposé de le fusiller le lendemain. Et les premiers jours, il a vu débarquer toute une série de personnes mal intentionnées avec des armes, y compris des gens qui avaient pris beaucoup d'alcool et qu'on avait du mal à maîtriser.
Il parle, je crois, entre autres d'un Russe et d'un Espagnol.
Alors ça, c'est encore une belle histoire qui est historique, mais qui est presque délicate à raconter. Parce que le camp où il était dirigé par un Espagnol et par un Russe, qui ont tellement exagéré quand la gendarmerie a repris les choses en place, on s'est débarrassé d'eux allègrement. Mais d'un autre côté, lorsqu'on est au Valdiv, il y a cette chose, ou à Drancy, il y a cette chose absolument inouïe qui arrive, c'est que vous avez une partie des FFI qui ne sont pas les bons FFI, mais les mauvais FFI, qui veulent attaquer le camp, et ils sont en disant à mort pour les prisonniers. C'est des histoires que je n'avais vues
nulle part. Pendant les massacres de septembre.
Absolument, on est vraiment dans les massacres. Et c'est tout à fait curieux historiquement, parce que franchement, ce sont des choses, et Dieu sait si j'aime bien l'histoire, que je n'avais jamais entendu avant, et c'est rempli d'anecdotes avec ce recul de Sacha Guitry, et aussi étonnamment que ça puisse paraître, ce côté agréable, merveilleux quand on lit, qui fait qu'on ne s'ennuie jamais, que c'est toujours divertissant, alors que le sujet n'est absolument pas drôle.
Alors, vous avez cité les lieux où il s'est retrouvé, Drancy, Valdiv, ces deux lieux avaient été utilisés quelques mois auparavant et par le camp d'en face, si l'on peut dire.
Oui, et les Français avaient fait tout leur possible pour faire la même chose volontairement, et du côté des Français, c'était pas mal. Par exemple, au départ, dans le Valdiv, la première nuit, on les avait fait dormir sur les fauteuils, mais la deuxième et les suivantes, ils étaient sur ce qu'on appelait la pelouse, mais qui n'était pas une pelouse, qui était du béton, avec interdiction de se lever. Là aussi, vu l'âge des personnes qui étaient là, etc., c'est assez inattendu, mais c'était vraisemblablement, comme vous l'avez mentionné, pour refaire le parcours des pauvres juifs qui partaient avec le Valdiv, Drancy, etc. Il y avait sûrement une symbolique qui était là-dedans, mais quand vous êtes innocent, et que vous n'avez rien à vous reprocher. Vous avez défendu des juifs constamment comme Sacha Guitry pendant l'occupation.
Il a écrit une pièce de théâtre condamnant l'interdiction aux juifs de travailler.
Exactement, dès janvier 1941, qu'il a pris la défense de Tristan Bernard d'une façon absolument inouïe, juste avant la libération.
Fils de Tristan Bernard ne lui en sera pas reconnaissant, c'est le moins qu'on puisse dire malheureusement.
Quand vous faites beaucoup de bien aux gens, parfois, la reconnaissance n'arrive pas. Et donc, Sacha, qui a été, tout pendant l'occupation, traité de juif par la presse collabo, il ne faut quand même pas l'oublier, le pilori, la France au travail, un troisième que je ne cite pas, le traité de juif constamment. Alors, se retrouver dans cette situation-là, après coup, est assez étonnant. Alors, après, on lui a dit qu'il était antisémite, ce qui montre la cohérence des choses. Mais comme le dossier était vide, d'où le fameux appel dans un journal du magistrat, le pauvre magistrat, il ne savait plus quoi faire.
Donc, lui-même va s'apercevoir, lorsqu'il va rencontrer ce magistrat instructeur, qu'il n'y a rien dans le dossier.
Absolument rien. Et comme il n'y a absolument rien, le magistrat n'en revient pas lui-même. À cause des fameuses rumeurs, mais s'il y a eu telle chose, telle chose, telle chose. Quand les gens me disent, il y en a heureusement de moins en moins parce que les gens sont intelligents, que les gens voient, comme Michel Faux voit les pièces de Sacha Guitry au théâtre de la Michaudière qui sont des triomphes, admirent les films comme si Versailles m'était compté, vont voir les trois coups de Jarnac où vous avez des pièces de Guitry qui sont jouées, tout ça organisé par Pierre Bonnier, qui est un admirable dynamisme à Jarnac et qui fait des merveilles. Toutes ces choses-là font que Sacha Guitry mérite une place très différente de celle qu'on a essayé de lui donner à un certain moment.
Nous allons faire une petite digression, mais nous avons peut-être bientôt à voir dans quelques instants. Pas encore maintenant, on attend un petit peu avant de passer le communiqué. Oui, simplement que, heureusement qu'il n'a pas été pillé grâce à quelqu'un qui est devenu célèbre ensuite. Sa maison n'a pas été son hôtel particulier plus exactement.
Voilà. C'est un homme merveilleux, c'est Alain Decaux, que lorsque je l'ai rencontré, je lui ai dit « c'est merveilleux ce que vous avez fait pour Sacha Guitry en protégeant sa maison ». Il a dit « oh, vous savez, je n'ai pas fait grand-chose ». Et Lana Marconi, la dernière femme de Sacha Guitry, lui a donné l'émeraude que Sacha portait, qu'il a serti sur son épée d'académicien. Parce que Sacha Guitry avait la plus belle collection d'impressionnistes, d'autographes, et d'édition originale. Nous avons publié à l'association des Amis de Sacha Guitry un livre qui s'appelle chez Sacha Guitry et qui reprend cette collection qui est inouïe, puisqu'elle va de Rembrandt à Picasso, et que vous avez des Toulouse-Lautrec ou des Monet ou des Renoir par demi-douzaine, avec des, à chaque fois des histoires de cœur, parce que c'est des personnes qu'il a connues, ou des sculptures inouïes de Rodin, le fameux film « C'est de chez nous ».
Il y a également donc quand même eu des manifestations, mais de gens qu'il a aidés. Il a fait revenir des prisonniers, on va presque lui reprocher d'ailleurs cela.
Oui, c'est assez terrible, parce qu'il y a même quelqu'un qui lui a dit « Écoutez, monsieur Guitry, dites pas que c'est vous qui m'avez fait revenir, parce que ça va me desservir. » Et c'est pour ça que le livre se termine par cette phrase épouvantable quand il est sorti de prison, et que Albert Villemetz, mon grand-père, le met pour qu'il se repose et qu'il soit détaché dans une clinique pour ne pas retourner chez lui tout de suite. C'est là où Sacha Guitry dit « Les ignominies ont commencé. » Parce que c'est là où il y a eu toutes les trahisons, et où, par peur, par lâcheté, à une époque où il est vrai, la vie est très spéciale à Paris. Voilà.
J'annonçais tout à l'heure donc le bobino habituel, le voici maintenant.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Je rappelle que je suis en compagnie d'Albert Villemetz pour 60 jours de prison de Sacha Guitry, donc c'est le mois haïssable qui précéda son arrestation, il en parle également. Et il y a quand même eu, dans les personnes qui ont été bienveillantes, dirons-nous, avec lui, il parle d'une religieuse à un certain moment.
Oui, il y a plusieurs religieuses, dont une portugaise absolument adorable, et qui a fait le bien le plus qu'elle pouvait. D'ailleurs, c'est assez frappant de voir qu'il y a la coexistence en prison de sadiques, de voleurs, je parle du côté pénitentiaire, enfin des gens qui dirigent, etc., de fous, enfin de tous la ligue d'humanité. Et à côté, vous avez dans les gardiens des personnes humaines qui veulent tout le faire pour arranger, certains bonnes sœurs qui ont l'air de dire « je ne suis pas trop aimable ». Mais en réalité, c'est pour pouvoir l'être plus, mais elles ne veulent pas se griller, comme on pourrait dire. Et donc, c'est ça qui fait de ce livre quelque chose aussi profondément humain, parce que son exceptionnelle mémoire a permis de retranscrire fidèlement, dans un résumé inouï, chaque jour, en notant tout ce qu'il y a d'extraordinaire.
Alors, dans les gens du spectacle, il y a souvent des gens qui sont jaloux, donc qui ont dû se réjouir. Par contre, il y a quelqu'un qui lui a envoyé un mot très sympathique. Pauline Carton.
La merveilleuse Pauline Carton. Pauline Carton, jeune, était assez jolie.
Je sais pas si tout à fait, j'ai vu des photographes. Et Arlitti a écrit dans ses mémoires qu'elle avait, paraît-il, une poitrine somptueuse.
Ah, et Arlitti s'y connaissait. Et dans la pratique, Pauline Carton était très intelligente, très cultivée. Sacha lui demandait d'ailleurs souvent des informations pour tel et tel élément historique.
Elle était capable de réciter presque une pièce après l'avoir vue.
Elle était prodigieuse. Et alors, elle est encore plus prodigieuse parce qu'elle est courageuse, libre face à tout le désordre actuel. Elle écrit en prison à Sacha « Patron, je ne sais pas où vous êtes, mais j'aimerais bien y être avec vous. » Ça, c'est une femme.
Effectivement. Est-ce que... Bon, il avait déjà des problèmes de santé avant, on en a beaucoup parlé. Est-ce que ces problèmes de santé ont été accrus par cette incarcération?
En réalité, je crois qu'il a perdu plus de 14 kilos. Mais surtout, ce qui a été terrible pour lui, ça a été une dépression épouvantable.
Oui, c'est sur le côté psychologique.
Voilà, parce qu'on l'a empêché de travailler. Après, il a un non-lieu, bien sûr. Il y a des lettres anonymes, on refait un deuxième non-lieu. Mais pendant 3 ans, on l'empêche de travailler tout en bloquant ses comptes en banque, ce qui n'est pas très gentil. Et on lui colle 8 millions de francs de l'époque, ce qui est une somme gigantesque, d'impôts pour la reconstruction du pays, ce que les gens payaient à l'époque quand ils avaient des sous. Seulement, lui, il n'avait plus de sous, c'était bloqué. Donc, il a dû vendre une série de tableaux auxquels il tenait énormément.
Bien évidemment.
Il ne pouvait pas faire ce qu'il aimait, c'est-à-dire jouer. C'est-à-dire donner au public tout le bonheur qu'il est. La fameuse phrase « Savez-vous ce que c'est que le public ? C'est votre pays. » C'est bien de pouvoir l'instruire, l'amuser, l'émouvoir. Mais est-ce que ce ne serait pas encore mieux si on pouvait lui faire du bien ? Et là, pendant 3 ans, il n'a pas pu faire de bien et ça a été pour lui terrible.
Et d'autres ne pouvaient même pas jouer ses pièces, je présume.
Ah, tout était bloqué. Personne n'y aurait même pensé. Il a même eu du mal à trouver un théâtre pour jouer le Diable boiteux Talleyrand. Puisqu'au départ, il avait prévu de faire un film quand les lois lui permirent enfin de travailler. La censure a refusé le film Le Diable boiteux et sa dernière épouse, Anna Marconi, lui a dit « Est-ce qu'il y a une censure pour le théâtre aujourd'hui ?»« Ah non !» Et il a tiré du film la pièce.
C'est l'inverse de ce qui se fait habituellement.
Comme d'habitude, Sacha confirme la règle. Et très intelligemment, il a pris comme titre Talleyrand, car le public de théâtre était à l'époque extrêmement cultivé. Et le film a été refait après parce qu'ils se sont rendus compte que c'était ridicule de refuser. Alors, en plus, Sacha raconte dans un autre livre les phrases qui ont été supprimées par la critique. Ces phrases historiques, c'est absolument consternant.
Et quand on voit le film, on s'aperçoit que le rôle des rois sont tenus par ceux qui jouent également les domestiques. Voilà. Ça aussi, c'est un...
Trouvaille absolument inouïe. Au départ, on voit quatre valets qui racontent la vie du prince de Talleyrand. Et ce sont en effet les mêmes acteurs qui vont jouer Louis XVIII, Charles X, Napoléon. Et puis, il y a « Je vais vous augmenter ». C'est Louis-Philippe qui arrive. Voilà.
Oui, il leur dit « Messieurs, je vais vous augmenter ». Ils sont très contents. Vous étiez trois, vous serez quatre désormais. Je crois que c'est à peu près cela la phrase. Mes souvenirs sont exacts. Mais c'est un film qu'on revoit toujours avec un immense plaisir.
Tellement merveilleusement intelligent, somptueux, avec la fameuse tirade de la calomnie qu'il a rajoutée comme Beaumarchais l'avait rajouté, puisque Beaumarchais ne l'avait pas mise dans la pièce au départ. Il l'a rajouté quand il a vu des confrères. Sacha a donc remis la calomnie avec la Comédie française. Et vous voyez Jean-Pierre également dans la distribution, comme d'habitude, est éblouissante.
Alors nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. Rappelons que vous rééditez à l'Association des Amis de Sacha Guitry également la plupart de ces pièces. Vous en avez déjà combien réédité?
On en a plus d'une trentaine. En tout, vous en avez 125. Mais nous avons même réédité des pièces qui étaient introuvables, comme Mon Auguste Grand-Père, la pièce interdite par les Allemands en janvier 1941, Le Dernier Troubadour en grande partie, que personne ne connaît non plus, et toute une série de pièces de théâtre que les gens connaissent très peu, comme celle que Sacha Guitry a fait avant-guerre pour le Palais de l'Élysée, Dieu sauve le roi. C'est une trouvaille également. Et toute une série de pièces absolument extraordinaires qu'on peut trouver sur le site de l'association des amis de Sacha Guitry.com.
Et rappelons qu'il a quand même tourné un documentaire devenu une page d'histoire avec ceux de chez nous.
Ceux de chez nous, vous voyez Monet en train de peindre, Rodin Sarah en train
Bernard.
De sculpter, Sarah Bernard, Renoir en train de peindre, Camille Saint-Saëns diriger un orchestre.
Enfin, un avocat en train de plaider.
Maître Henri Robert, le grand bâtonnier de l'époque, Edmond Rostand, Anatole France en train d'écrire. Enfin, c'est ceux de chez nous, le titre est merveilleusement choisi, c'est 1915, et il avait été écrit en réponse à un plaidoyer des Allemands de l'époque qui disait que notre culture était en train de tomber. Et en 1915, Sacha avait dit non, voilà ce qu'on peut faire.
Nous arrivons donc au terme, je vous remercie, nous avons parlé de Sacha Guitry, 60 ans de prison. Nous allons terminer par une chanson de votre grand-père. Alors ce n'est pas une chanson de Sacha, mais c'est le climat de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est la symphonie des semelles en bois.
Exactement.
Je ne sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme si bon, dans mon cœur vient comme une chanson. Tap, 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 disent le matin les petits souliers de sapin. Tap, 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 faut te réveiller, te lever, travailler. En marchant, les midinettes semblent faire des claquettes. Et tout le jour, on entend ce bruit si éloquent. Quel charmant vacarme font ces milliers de petits souliers. Les femmes ont du charme, à présent jusqu'au bout des doigts de pied. J'aime le tap, tap des semelles en bois. Ça me rend gai, ça me rend tout, je ne sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme si bon, dans mon cœur vient comme une chanson. Tap, 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 c'est le refrain de la rue pleine d'entrain. Tap, 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 la symphonie des beaux jours moins vernis. Ça claque, ça vibre et ça sonne plus qu'aimant qu'un klaxon. C'est le rythme parigot du sourire en sabot. Il chante la vie, il est nerveux, il est rigolo. C'est de l'euphorie que sa musique vous met dans la peau. J'aime le tap, tap des semelles en foie. Ça me rend gai, ça me rend tout, je ne sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme si bon, dans mon cœur vient comme une chanson, c'est bon. Ah, que c'est bon. Mais que c'est bon. Oh.